Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal Hélène Destombes.
Bonsoir. Communiquer en rencontrant les personnes là où elles se trouvent, c'est l'appel du pape François dans son message pour la 55e journée mondiale des communications rendue publique ce samedi. Elle a pour thème cette année « Viens et vois ». Dans ce texte publié à la veille de la commémoration de Saint François de Sales, patron des journalistes, le Saint-Père met en garde contre le risque d'une information formatée. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Dans ce message, le pape dresse d'abord un constat, celui d'une information souvent préfabriquée, reprise en boucle par de nombreux médias dans des journaux photocopiés, écrit-il. Une information, déplore-t-il, qui réussit toujours moins à interpréter la vérité des choses et la vie concrète des personnes et qui ne sait plus saisir ni les phénomènes sociaux les plus graves, ni les énergies positives qui proviennent de la base de la société. Le pape invite ainsi à user les semelles des chaussures, à s'ouvrir à la rencontre pour être au plus près de la réalité des gens. Ces détails d'actualité se retrouvent dans l'évangile de Jean où Philippe invite Nathanaël à venir et voir. La foi chrétienne commence ainsi, écrit le pape, et elle se communique ainsi comme une connaissance directe, née de l'expérience, pas par oui-dire. Dans ce message, François remercie également le courage et l'engagement de nombreux professionnels des médias qui racontent les guerres ou évoquent les minorités persécutées. La pandémie actuelle, poursuit-il, nous interroge sur la façon dont sont rapportées les informations. Qui nous racontera l'attente de guérison dans les villages les plus pauvres de l'Asie, de l'Amérique latine et de l'Afrique, demande-t-il, mettant en garde contre la prétention de voir le monde avec les yeux des pays riches. En somme, une véritable communication, conclut le pape, se fait par le témoignage de vie, comme saint Paul dont la foi, l'espérance et la charité impressionnèrent ses contemporains. Depuis plus de 2000 ans, c'est un enchaînement de rencontres qui nous communique la fascination de l'aventure chrétienne. Le défi qui nous attend est donc celui de communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont.
Olivier Bonnel, et pour en savoir davantage sur ce message, rendez-vous sur notre site vaticannews.va. C'est à cette même adresse que vous pourrez suivre demain, dès 10h, en direct avec commentaires en français, la messe présidée par le pape François en la basilique Saint-Pierre, à l'occasion du dimanche de la parole de Dieu. C'était il y a un an, jour pour jour, la Chine décrétait un confinement total de la ville de Wuhan, premier foyer de coronavirus. Aujourd'hui, si cette métropole de 11 millions d'habitants est libérée de la pandémie, dans de nombreux pays, la situation est tout autre. Aux États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni, au Liban, le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. La Belgique, qui craint les effets dévastateurs du variant, a même interdit à sa population tous les voyages non essentiels hors des frontières. Le continent africain n'est pas épargné. Le Gabon a ainsi annoncé ce samedi un renforcement des restrictions sanitaires. Le couvre-feu est anticipé de 22h à 20h et le non-respect du port du masque sera sanctionné par une amende. Sur le plan de la vaccination, Israël a commencé à vacciner aujourd'hui les adolescents. En Europe, de nombreuses capitales manifestent inquiétude et colère face au ralentissement des livraisons de doses de vaccins. Quelques jours après Pfizer, AstraZeneca annonce également des retards en raison d'une baisse de rendement sur un site de fabrication. Certains pays prévoient même jusqu'à 80% de livraisons en moins que prévu. Le secrétaire général de Caritas Internationalis plaide pour ne laisser personne de côté dans la course à la vaccination. Dans une tribune intitulée « Répondre à la pandémie dans un monde d'inégalités, la voie à suivre pour le vaccin », publiée ce samedi dans l'Osservatore Romano, Alois John rappelle que les vaccins constituent un droit humain fondamental. En Russie, l'appel à manifester d'Alexeï Navalny a été entendu. Des dizaines de milliers de partisans de l'opposant russe se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays. Des manifestations en signe de solidarité, mais aussi contre la justice parfois expéditive de leur pays. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Ils étaient plusieurs milliers à Moscou, de 5 à 10 000 personnes rassemblées autour de la place Pouchkine. Ils scandaient « Pour la vérité », « Poutine voleur » ou « Liberté pour Navalny ». Devant un important dispositif de sécurité déployé par la mairie de la capitale. Quant aux policiers, ils ont procédé à de nombreuses interpellations sans vraiment ménager les manifestants, les faisant tomber du haut de lampadaires ou en assénant des coups de matraque non retenus. Les autorités avaient prévenu qu'elles ne toléreraient pas ce rassemblement, qualifié d'illégal, mais on ne peut pas dire non plus qu'elles ont fait preuve d'une tolérance zéro. De nombreux manifestants ont pu sortir du rassemblement pour regagner le métro sans le moindre problème. Sur l'ensemble du pays, on dénombre plus de 1500 arrestations, un chiffre conséquent qui montre qu'Alexeï Navalny Roumanie dispose d'une solide base de partisans, mais dans le même temps, on voit qu'elle est trop faible pour exercer une influence déterminante sur le pouvoir, du moins pour l'instant. Pour rappel, Alexei Navalny risque d'être condamné à plus de 13 ans de prison dans différentes affaires, et il n'est pas sûr que la mobilisation d'aujourd'hui incite les autorités à la clémence. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Et le gouvernement russe a dénoncé aujourd'hui une certaine influence de Washington. L'ambassade des États-Unis à Moscou est sommée de s'expliquer. Le ministère russe des Affaires étrangères lui reproche la publication sur son site internet d'itinéraires de manifestations d'opposants en Russie. Pour Moscou, il s'agissait d'encourager les manifestants. Le président brésilien Jair Bolsonaro, accusé par le chef Raoni de persécuter les peuples autochtones en détruisant leur habitat et en bafouant leurs droits fondamentaux. Le défenseur de la forêt amazonienne demande à la Cour pénale internationale d'enquêter pour crimes contre l'humanité. Direction dans notre dossier le Portugal, à la veille de l'élection présidentielle. Un scrutin qui se tiendra dans un contexte très particulier. Confiné depuis une semaine, le pays figure au premier rang mondial en nombre de nouvelles contaminations par rapport à sa population. Une crise sanitaire qui pourrait faire bondir l'abstention. L'issue de ce scrutin ne réserve pas de grandes surprises. Le président sortant, Marcelo Rebelo de Sousa, très populaire, devrait s'imposer dès le premier tour et effectuer un second et ultime mandat. Comment expliquer cet attachement des Portugais à leur président, qualifié de rassembleur, très accessible et qui apparaît comme une quasi-exception à l'heure de la défiance envers les dirigeants politiques? Élément de réponse avec l'historien Yves Léonard, spécialiste du Portugal contemporain à Sciences Po.
C'est une recette qui s'est en fait construite au fil des années. C'est un long parcours à la fois politique, universitaire et médiatique. Politique parce qu'il a, dès son plus jeune âge, occupé des fonctions au moment de après la révolution des œillères, en 1974-75. Il a été impliqué dans la rédaction de la Constitution, il a été élu. La deuxième dimension, c'est celle d'un homme des médias. Il s'est également beaucoup impliqué dans le renouveau des médias après la chute de la dictature. Et au fil des années, il a construit aussi une image publique à travers les médias, par l'écrit, par la radio et par la télévision. Et puis, troisième volet, je disais, cette dimension universitaire qui est son ADN, qui est sa colonne vertébrale, puisque c'est un professeur émérite et de grand renom en matière de droit et de sciences politiques. Et au Portugal, comme dans beaucoup de pays, ça compte.
Derrière cette popularité auprès de la population, que dire de ses soutiens politiques?
Rebelo de Sousa est le président de tous les Portugais. Il a pris son rôle dans cette dimension très, ce vœu de rassemblement, de parler au nom de tous les Portugais. Et donc, d'être, comme on dit, au-dessus des partis et du jeu partisan. Par ailleurs, il a lui-même, tout particulièrement avec le Premier ministre, Antonio Costa, des liens de quasi amicaux, de respect mutuel, qui font que cette cohabitation, si on peut dire, entre un président de centre-droite et un gouvernement de centre-gauche, fait plutôt bien fonctionner, à tel point que aujourd'hui, pour la présidentielle, Antonio Costa n'a pas soutenu officiellement la candidate issue des rangs du Parti socialiste, Ana Gomes, privilégiant plutôt la reconduction de Rebelo de Sousa à la présidence de la République pour des raisons qu'ils estiment de stabilité, de cohérence, et notamment dans le cadre de cette présidence qu'exerce ce premier semestre le Portugal du Conseil de l'Union européenne.
Comment la pandémie, la façon dont elle a été gérée, a-t-elle pesé sur la popularité du président?
Alors Rebelo de Sousa, par rapport à cette crise, il a tout de suite, très tôt, dès le mois de février-mars 2020, pris la mesure, si l'on peut dire. Il s'est lui-même, d'ailleurs, et ça a été beaucoup médiatisé, auto-confiné, avant même les mesures de la seconde quinzaine du mois de mars, il s'est auto-confiné par prudence, parce qu'il avait été au contact de personnes atteintes du Covid. Alors, dans le contexte de la campagne très compliqué, le gros souci, c'est que on voit bien qu'il va y avoir un taux d'abstention très élevé. Dans ce contexte de confinement, de contraintes pesant sur les déplacements et tout, il est bien évident que beaucoup de Portugais et Portugaises ne se rendront pas aux urnes ce dimanche.
Interrogé par Marine Henriot, Yves Léonard, historien du Portugal contemporain à Sciences Po, était l'invité de notre dossier. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.